Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 17 novembre 1936, Roger Salingros, victime de la calomnie. Mardi 17 novembre 1936, le maire de Lille et ministre de l'Intérieur du Front populaire, Roger Salingros, rejoint vers 20h30 son appartement lillois du 16 boulevard Carnot. Sur la table de la salle à manger l'attend son dîner, préparé par Madame Renard, sa femme de ménage. Deux ronds de saucisson, une tranche de pâté et un morceau de pain, le tout arrosé de bière. Il n'y touche pas. À une heure indéterminée de la nuit, il pénètre dans sa cuisine et ouvre le robinet du gaz. Le lendemain matin à 8h, Madame Renard le découvre allongé par terre, inanimé. Elle ouvre la fenêtre, puis prévient la mairie. Denis Cordonnier, adjoint au maire et médecin, arrive. Il constate le décès et retrouve dans le portefeuille de Roger Salingros une lettre adressée à son frère. Elle est laconique. Henri, les surmenages, la calomnie, c'est trop cette fois. Le chagrin m'a vaincu. À maman, à toi et aux nôtres, je rejoins Léonie Salingros. Une autre missive est destinée à Léon Blum. Elle est plus longue, mais l'essentiel tient en ces lignes. J'ai lutté de mon côté vaillamment, mais je suis à bout. S'ils n'ont pas réussi à me déshonorer, du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort, car je ne suis ni un déserteur ni un traître. Mon parti aura été ma joie et ma vie. Né en 1890, Roger Salingros rejoint la SFIO dès 1909. Militant ardent et virulent, il est inculpé un an plus tard pour incitation à la violence lors de la grève des cheminots. Il bénéficie d'un non-lieu. Toujours en 1910, il est poursuivi pour incitation à la désobéissance. Roger Salingros est alors inscrit au carnet B qui regroupe les noms des suspects à surveiller ou emprisonner en cas de mobilisation. En décembre 1912, il effectue son service militaire à Arras, ce qui ne l'empêche pas de participer en uniforme aux manifestations contre la loi des 3 ans. Il est perçu comme un dangereux antimilitariste. En août 1914, il est incarcéré quelques semaines avant d'être incorporé au 331e régiment d'infanterie. À sa demande, il est envoyé au front. Au printemps 1915, malade, il est évacué, mais à peine guéri, il demande à repartir au feu. Roger Salingros est capturé par les Allemands le 7 octobre 1915. Ses adversaires politiques affirment qu'il a trahi et déserté. En fait, il est emprisonné en Bavière où il refuse de travailler dans une usine métallurgique qui participe à l'effort de guerre. Son ardeur patriotique entraîne avec lui une quarantaine de détenus. Traduits devant un conseil de guerre, ils sont condamnés en juillet 1916, à 2 ans de camp disciplinaire. L'affaire Salingros débute dès l'automne 1915. Après sa disparition, son capitaine rédige un rapport concluant que, bon soldat, il a été tué ou fait prisonnier. En conséquence, il est porté disparu. Cependant, un mois plus tard, le même officier apprend sa capture. Il écrit un nouveau rapport ainsi libellé. Il semblerait, étant donné le passé du soldat, qu'on se trouve en présence d'une vulgaire désertion à l'ennemi. Une plainte est déposée devant le conseil de guerre qui acquitte Roger Salingros en janvier 1916 par 3 voix contre 2. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Roger Salingros reprend ses activités militantes. Il est élu conseiller municipal de Lille, puis conseiller général. Il devient également secrétaire administratif de la Fédération socialiste du Nord. Maire de Lille en 1925, il entre au Palais Bourbon 3 ans plus tard. en juin 1936, au lendemain de la victoire du Front populaire, il est nommé ministre de l'Intérieur. Pour assurer l'ordre public, il n'hésite pas à s'attaquer aux extrémistes de droite. Le 19 juin, il prend 4 décrets de dissolution d'organisations factieuses. Pour une partie de la droite, il devient le ministre à neutraliser. Le 10 juillet, un député conservateur du Nord, Henri Bécard, écrit à Édouard Daladier, ministre de la guerre, pour lui demander des explications sur l'attitude du soldat Roger Salengro. Quelques jours plus tard, l'Action française de Charles Maurras affirme que le maire de Lille a été condamné par contumace. Roger Salengro est sur la défensive. Il tente de se justifier au lieu de contre-attaquer. Plus il répond, plus il s'enferre. Bientôt, il se réfugie dans le silence. La presse affirme que des pièces de son dossier militaire ont été détruites. À la demande de Léon Blum, une commission est créée pour clarifier la situation. Présidée par le général Gamelin, elle conclut ses travaux en faveur du ministre de l'Intérieur. Toutefois, la droite nationaliste ne désarme pas. Le 13 novembre, elle porte l'affaire à la tribune de la Chambre des députés. Le débat est tumultueux, Roger Salengro est finalement innocenté. Plus de 70% des députés hostiles au Front populaire lui apportent leur suffrage. Pourtant, la polémique se poursuit. Mais Roger Salengro abandonne le combat. Il est usé, mais aussi fortement éprouvé par la maladie de sa mère et le décès de son épouse Léonie, survenu le 29 mai 1935. Les obsèques nationales de Roger Salengro se déroulent le 22 novembre 1936. Le gouvernement est présent. Des centaines de parlementaires, des milliers d'élus et des dizaines de milliers de militants avec leurs drapeaux rouges cravatés de crêpes convergent vers Lille. La foule est estimée à 1 million de personnes. Le discours de Léon Blum est relayé dans les principales villes de France. Le président du Conseil fustige une certaine presse qui use de la calomnie. Sans respecter le deuil, l'extrême droite s'acharne. Roger Salengro a payé, lance Louis Darquier de Pellepoix. Jean-Louis Tixier-Vignantour estime que Roger Salengro s'est suicidé par crainte de révélations nouvelles. Henri de Kérilis écrit dans l'Écho de Paris: Léon Blum porte l'entière responsabilité. On ne va pas chercher ses ministres sur les bancs des conseils de guerre. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, trois livres. Ce sera 4 exceptionnellement aujourd'hui. C'est Barbara qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès qui date de 1970, L'Aigle Noir.
Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant un ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, cessa de déployer. Lentement, je le vis noyé. Près de moi, et dans un bruit sommeil, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des pelures de couleur de la nuit. À son fond, brillant des mille feux, l'oiseau roi couronné c'est un diamant bleu de son bec. Il touche mes mains chaudes dans ma main. Il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai connu, surgissant du passé. Il m'était revenu. Il voit son emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant les étoiles de tes toiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie, et faire que mes réveils l'être noir dans un bruissement tel, brille son vol pour gagner le ciel. Une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant que le ciel, et venant prenait le pas, surgit un bleu noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant greffer le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormie. Quand soudain, il surgit de nulle part, il surgit de l'aigle noir. Un beau jour, une nuit, forêt de l'âme, endormie.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire Un jour, trois livres, qui nous a été préparée par Emmanuel. Ce sera quatre livres aujourd'hui, exceptionnellement, à commencer par Le Diable de Dominique Labarrière aux éditions Pygmalion. À travers cet essai historico-ésotérique, l'auteur évoque la figure du diable dans ses métamorphoses et ses œuvres. Et le bouc émissaire, c'est bien souvent la femme, la Lilith du Moyen-Âge à nos jours. Il dresse les multiples visages de l'incarnation du mal. Cela passe par l'époux voulant se débarrasser de sa femme, se transformant en louve ou par Sade, et bien souvent par les convoitises charnelles et ou financières qui amènent généralement la victime de ces persécutions au bûcher. Et le diable est souvent dans le détail, tel fut le cas pour celle qui, le bras droit ayant été cassé par la torture, signa du bras gauche la main du diable. Le diable de Dominique Labarrière s'est publié aux éditions Pygmalion. Le bûcher de Notre-Dame de Gary Douglas aux éditions Salvator. Nous nous souvenons tous du 15 avril 2019, jour où la cathédrale Notre-Dame de Paris fut la proie des flammes, où sa flèche s'effondre. Deux ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé pour justifier une telle catastrophe. Pourtant, dès le lendemain du drame, avant même que l'enquête ne débute, le parquet de Paris considère qu'il s'agit d'un incendie involontaire. À partir de ces éléments, l'auteur va en tirer un thriller. Une journaliste américaine assiste en direct à l'événement qui a lieu le premier jour de la semaine pascale et un détail va la troubler au point de la lancer dans l'enquête auprès du clergé et de la police. le bûcher de Notre-Dame va vous plonger dans l'histoire de la cathédrale la plus connue et la plus secrète de la chrétienté. Le bûcher de Notre-Dame, c'est signé Gary Douglas et c'est publié aux éditions Salvator. Les enquêtes de Maud Delage, tome 1, du sang sous les collines, suivi d'un circuit explosif. C'est signé Marie-Bernadette Dupuis et c'est publié aux éditions Kalman Lévy. Nous faisons la connaissance de Maud Delange, nouvelle recrue à la gendarmerie d'Angoulême, personnage sympathique et casse-cou. Elle va résoudre deux enquêtes. La première, du sang sous les collines, met en scène un jeune couple de marginaux retrouvés assassinés dans un souterrain. Dans la deuxième, un circuit explosif. Il s'agit d'un coureur automobile qui est victime d'un attentat. Et pour terminer cette chronique littéraire et par là même cette émission Historama, L'ange qui disait merci, de Martine Bazin aux éditions Teki. Martha rencontre Henri-Ange à la chorale de sa paroisse, en tombe secrètement amoureuse, mais lui, devenu prêtre missionnaire, part en Afrique et lui remet avant de partir une statuette. Un ange quêteur qui remercie lors des offrandes. Et l'ange va être volé, passé de main en main et revenir à son point de départ. Henri-Ange et la famille de Martha, grâce à la foi, l'espérance et l'amour. L'auteur spécialisé dans les histoires pour enfants s'est inspiré d'une histoire qu'elle a elle-même vécue dans les années 1970. L'ange qui disait merci de Martine Bazin s'est publié aux éditions Teki. Voilà, ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisée. C'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Barbara, un titre de 1965, Göttingen.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen. Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine. Puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. À Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Thank you.